Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Elle s'appelle Monica, Tania, Carmel ou Erel. Des prénoms choisis avec soin pour coller à leur nouvelle identité de femme alors qu'elles sont nées hommes. En pleine transition, elles ont accepté de parler de ce changement de genre, des difficultés rencontrées et de la violence aveugle et continue qu'elles subissent juste parce qu'elles estiment ne pas être nées dans le bon corps. Des propos crus, émouvants, parfois très durs pour interroger la société sur ce changement d'identité. Vous allez l'entendre, décision aux conséquences souvent dramatiques. Parole de transsexuel, c'est un reportage d'Igor Strauss à Abidjan.
Priorité santé sur RFI.
J'ai deux tatouages. J'ai un tatouage sur le mollet gauche. Parce qu'il y a mon papa, ma maman, quatre enfants. Voilà, donc ça fait six personnes. Donc il y a six étoiles qui ont cinq branches. Et puis il y a une seule étoile qui a quatre branches. C'est moi, je ne suis pas comme les autres. C'est ce que je dis toujours à ma maman. Je ne suis pas comme les autres. Elle ne peut pas comprendre. Toujours quand je veux parler de ma maman, je ne peux pas, je pleure parce que je ne veux pas qu'elle me regarde et qu'elle soit découragée. Et ici, j'ai écrit « Je t'aime, maman ». Parce que je sais que ma maman m'aime, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que je veux être. Ma maman va m'aimer toujours, même si c'est difficile.
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous avez donc rencontré quatre transsexuels en pleine transition, c'est-à-dire en pleine transformation de leur corps. Alors dans quelles circonstances s'est déroulée cette rencontre ?
Eh bien, j'étais il y a quelques mois en reportage à Abidjan sur l'accès aux soins de certaines populations clés, comme les homosexuels, hommes et femmes, et les prostituées. Un reportage que nous avions diffusé dans cette émission en septembre dernier, et au cours duquel j'ai suivi le travail de l'association ivoirienne Espace Confiance, qui s'est spécialisée dans la prise en charge et le suivi de toutes ces populations stigmatisées. J'étais donc dans la clinique Confiance que l'association a ouvert à Biétry, un quartier d'Abidjan, et là j'ai pu assister à une réunion entre Ren Sedji, l'assistante sociale, et le docteur Fofana d'Espace Confiance et quatre transsexuels. Les questions étaient simples, comment se passe la transition? Est-ce que cela a changé vos relations avec votre famille et vos amis? Quelles sont les principales difficultés rencontrées? Alors, je ne devais rester que quelques minutes à cette réunion, mais devant la force des propos et l'émotion ressentie, eh bien, je suis resté beaucoup plus longtemps que prévu et j'ai également posé mes questions.
Alors, ces quatre femmes en pleine transition ont-elles tout de suite accepté de se confier à votre micro ?
Oui, tout de suite et avec une franchise touchante, Caroline. Vous allez l'entendre, les mots sont parfois drôles, souvent durs, toujours justes et ils nous plongent dans un quotidien glaçant. Ces quatre femmes sont victimes de violences verbales quotidiennes et deux d'entre elles ont échappé à la mort suite à des agressions physiques. Vous le savez, il est difficile de parler d'homosexualité en Afrique et dans de nombreuses parties du monde, mais la transsexualité reste le sujet tabou par excellence.
Et c'est donc maintenant, Igor, que vous nous proposez de nous faire écouter ces paroles de transsexuels. Votre reportage, Igor Strauss, à Abidjan.
On transitionne parce que on veut conformer maintenant l'expression de notre genre à notre identité physique. Parce que on veut dire depuis dès l'enfance, c'est un ressenti personnel. On ne l'a pas cherché, on ne le fouille pas, on est né avec, on grandit avec. Et puis, arrivé à un certain moment de la vie, on prend des décisions face à ce sentiment-là. Donc, c'est ce qui aujourd'hui explique les raisons. Sinon, ce sentiment déjà me mettait dans un rapport familial pas trop confortable. Le fait de ne pas être moi-même, je vivais pour les autres, je vivais... pour la société, mais il est arrivé un moment de ma vie, j'ai décidé de tout couper. Je dis, je veux vivre maintenant pour moi, être en conformité avec moi. Et c'est ça ma réalité.
Eh bien, je pense qu'après cette transition, moi, je me sens plus à l'aise d'ailleurs. Voilà, parce que quoi qu'on dise, dans la société, il faut s'imposer. Il faut s'imposer pour pouvoir vivre. Quoi qu'on dise, on ne peut jamais être aimé par tous. Voilà. Du fait que déjà, tu te sens déjà mieux, c'est déjà l'essentiel. Voilà. Et c'est toi maintenant. De par ce que tu es, tu dois maintenant imposer cela à la société. voilà, qu'on veuille ou pas, déjà c'est ce que tu veux, et tu as corrigé ton corps, donc vraiment tu mènes ta nouvelle vie. Voilà.
Je me sens à l'aise dans ma nouvelle peau et dans ma nouvelle vie. Parce que dans le passé, avant ma transition, quand je passais dans la rue, les gens me lançaient les pieds et autres. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je passe, on me voit en tant qu'une femme, en tant qu'une fille que tout le monde désire. Et voilà. Mais je ne sais pas, c'est quand tu passes, on t'appelle, ma chérie. Quand c'est comme ça, tu te sens encore plus. Donc imagine, qu'est-ce que c'était dans ton ancienne vie. Mais il y a longtemps qu'on déjà tué.
Quand tu fais une transition, tu as les seins, tu as le visage, les traits plus fins, des courbes. Immédiatement, tu prends de l'assurance. Et puis, on ne peut que te respecter parce qu'on voit celle qui est à l'intérieur de toi, que tu fais ressortir vers l'extérieur. Donc, c'est cette personne, les gens perçoivent. Donc, il ne peut qu'aimer cette fille-là.
Mais justement, quand vous vous voyez dans le miroir en tant que femme, qu'est-ce que vous admirez le plus en vous ?
Tout mon corps. Voilà, parce que je ne peux pas aimer une partie de mon corps pour laisser l'autre partie. Et surtout parce que la femme, c'est la tête. La femme, ce n'est pas le physique seulement, hein, c'est la tête. Voilà. Une fois que dans la tête, déjà, tu te sens bien, ça se répercute sur ton physique. Voilà, donc pour moi, c'est ça. Quand je me regarde dans le miroir, il n'y a aucune partie de mon corps que je délaisse. Tout me plaît. Voilà, parce que vraiment, la transition se passe parfaitement. Donc déjà, c'est ça pour moi.
L'idéal pour moi, c'est vraiment d'être une femme parfaite sur tous les points. C'est-à-dire avoir une poitrine bien généreuse, un beau physique. S'il le faut, même aller jusqu'à l'opération du sexe. Voilà. Parce que c'est l'aboutissement pour toute trans. Voilà. Changer d'identité, changer aussi le sexe. Donc, c'est vraiment l'idéal pour moi. Voilà.
Est-ce que vos relations ont changé? La nature de vos relations, relations entre vous, vos parents et vous, vos amis et vous, le quartier et vous. Qu'est-ce qui a changé?
Ok. La relation pour moi, ma famille et moi, n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que moi, j'ai deux enfants. Mon premier fils a 22 ans et mon deuxième, il a 15 ans. Il passe le BPC cette année.
Comment est-ce qu'ils ont vécu votre transition?
Le début, parce que je n'ai pas voulu vraiment qu'ils apprennent ça par quelqu'un d'autre. Voilà, parce que je me suis dit quoi? Quoi qu'on dise, forcément, ils vont finir par le savoir. Et c'est comme ça que je me suis concerté avec ma maman. Et elle a dit, bon, je peux leur en parler, mais je veux vraiment que toi-même, tu fasses le premier pas. Et d'abord, j'ai commencé par mon premier fils. Il était venu avant quand je lui ai dit, bon, ok. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. 4h du matin, je l'ai réveillé. Je lui ai dit, ah, vraiment, voilà ce que je suis. Mais quel est ton point de vue? Et là, il m'a dit, non, je connais déjà tes amis. Et quand il a dit ça, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, tu connais mes amis? Il dit, oui, mais tu avais des amis avec qui, comment on appelle ça, Azopé, ils viennent à la maison, tout ça, chez la grand-mère, tout ça là. Donc, j'ai vu tes amis. J'ai dit, ah, ok. De toute façon, tu as vu mes amis, c'est comme ça que je suis. Mais est-ce que ça change quelque chose en toi? Il dit, non. L'éducation que tu me donnais, c'est la même éducation que tu continues toujours de me donner. Donc là, je n'ai pas de problème à ça. Et c'est comme ça que je lui ai dit, bon, ok, je pense qu'avec toi, on va essayer de préparer aussi ton petit frère pour qu'il puisse vraiment aussi m'accepter. Et c'est comme ça que j'ai essayé de faire le pas aussi vers l'autre quand il a commencé à grandir un peu. Et aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec eux. Ça se passe bien.
Et comment ils vous appellent?
Moi, je ne les impose pas, voilà, de m'appeler comment, voilà. Et quand on est ensemble, vous et moi, appelez-moi comme vous voulez. Mais une fois qu'il y a soit une tierce personne ou bien un visiteur, appelez-moi par l'identité que je porte. Donc, c'est comme ça.
Donc, c'est pas papa?
Papa, maman. Les deux, si tu prends.
Parce que vous parlez de votre identité. Comme je travaille à la radio, je suis obligé de décrire. Oui. Vous êtes une femme pulpeuse, oui. Poitrine généreuse que vous mettez en avant, cheveux longs, jolie robe.
Merci. Oui, oui.
À la maison. Si vous appelez papa, ça aurait pu créer un décalage, peut-être.
Oui.
Dans la rue, je veux dire.
Bon, dans la rue, bon, peut-être que pour ne pas attirer trop l'attention des gens, hein, mais malgré que je les ai dit ça, ils ont choisi seulement maman. Quand je suis avec eux, ils m'appellent maman. Voilà. Que ce soit le petit, que ce soit le grand, c'est maman. Et ma maman, même quand elle vient chez moi, c'est ma fille. Voilà. Et depuis même que j'ai fait la transition, elle ne m'a plus appelé par le nom que je portais avant. Voilà. Donc c'est le nom que je porte actuellement qu'elle m'appelle, voilà. Et elle ne m'a jamais appelé même par ses noms, mais elle m'appelle toujours ma fille. Et puis bon, voilà. Donc, c'est toujours comme ça.
Et la maman biologique des enfants, comment elle a réagi?
Parce que au début, même elle connaissait même déjà ce que j'étais. Voilà. Mais puisque ma maman voulait que je lui donne des petits-enfants, et j'ai forcé vraiment pour faire plaisir à ma maman. Raison pour laquelle j'ai fait les enfants. Voilà. Sinon, je ne voulais pas. Mais puisqu'elle insistait, elle insistait. Et puis bon, j'étais vraiment son unique. Donc, j'ai des frères et sœurs, mais bon, on parle de maintenant. Je suis la dernière. Voilà. Donc, j'étais vraiment sa préférée. Donc, puisqu'elle voulait vraiment que je lui donne des petits-enfants, je voulais vraiment lui faire plaisir. Ça n'a pas été facile, mais vraiment, Dieu était vraiment au contrôle et puis ça marchait. Donc, la fille en question connaissait vraiment ce que j'étais et elle a accepté. Donc, on a vécu ensemble dans la même maison, tout autour, jusqu'à mes enfants ont commencé à grandir un peu. Et je l'ai fait rasseoir un jour, je lui ai dit, vraiment, tu sais que je ne peux pas te mentir, je ne peux pas te blaguer. Je ne vais jamais te marier, je ne vais jamais t'épouser, mais je peux te venir en aide au cas où tu as des problèmes. Donc, elle a dit, mais les enfants ont fait comment? Je dis, les enfants, il n'y a pas de souci. Les enfants peuvent venir chez toi en vacances. Ils vont venir chez moi. Mais pour les problèmes administratifs, pour les problèmes de papier, du fait que j'ai fait ma transition, donc là, je serai obligé que les enfants portent mon nom. Et c'est comme ça que j'ai changé leur nom. Et j'ai mis mon nom en tant que mère. Voilà. Et puis bon, c'est comme ça.
Moi, d'abord, ma famille m'a déjà accepté tel que je suis. Parce que depuis que j'étais en famille, je me suis déjà opposée à eux. Et je faisais tout, pratiquement tout à la maison. Je préparais le riz, la sauce, je pilais même le foutu, tout ça. Là. Et quand j'ai commencé ma transition, ma famille ne savait pas, ce serait mon dit. La seule personne qui savait, c'était ma petite tante qui travaille à zone 4 ici. Et quand elle partait à la maison, elle montrait ma photo à ma maman un peu. Donc c'est comme ça que j'ai quitté la maison, j'avais oublié mon passeport à la maison, donc j'avais besoin de ça. Et c'est comme ça que j'ai appelé ma petite tante, qu'il faut voir dans tel coin j'ai mon passeport qui est là, que je peux m'amener ça. Et c'est comme ça, elle a pris mon passeport. À ma grande surprise, mon chemin est venu seul. Elle ne venait pas seule. Elle est venue avec ma maman. Et quand j'ai vu ma maman en face de moi, sincèrement dit, j'avais les larmes aux yeux. Elle m'a dit, puis ça m'a juste réconforté. Elle m'a dit, non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Déjà, je sais qui tu es et je sais comment tu es devenue grâce à ta tante quand elle m'envoie tes photos. Mais moi, je n'ai pas grand-chose à te dire. Ce que j'ai à te dire, fais attention. Et c'est là qu'on a commencé à causer, on a ri. Ils m'ont remis mes papiers et puis bon, on s'est laissé. Au fur et à mesure, quand elle ne me voit pas, elle m'appelle. Quand je ne la vois pas, je l'appelle. Voilà.
Bon, mes rapports déjà avec ma famille, c'est que à la base, j'étais déjà très différente de mes frères et sœurs. Jusqu'à le voisinage même en parlait. Ah, madame, votre enfant est très différent. Vous savez, est-ce bien votre enfant? C'est mon enfant. C'est moi qui l'ai accouché. Je reprends en fait les expressions de maman. Parce que j'étais très très différent en fait. Et que le voisinage même a pu remarquer et que mes parents ont pu remarquer. Je dis toujours qu'une mère a le truc de défendre son enfant contre vents et marées. Mais quand on vient dans la situation des personnes LGBT, notamment des personnes transgenres, et qu'on voit les familles rejeter leurs enfants, c'est choquant, d'abord pour la personne en question, parce que tu te retrouves rejeté par ta famille, celle-même qui est censée comprendre ta réalité, accepter ta réalité, t'accepter telle que tu es, pour la bonne marche des choses. Parce que la famille, c'est le socle. La famille, c'est la base. Une fois que la famille ne t'a pas reconnu, c'est la rue qui te reçoit. Et c'est la rue maintenant qui se charge de ton éducation. Donc, j'ai eu aussi une situation de vie assez douloureuse aussi avec mes parents. Parce que, certes que mon père était là, mais c'était le grand absent aussi dans notre éducation. Donc, l'éducation a été à la responsabilité de maman. Donc, c'est maman qui a tout fait. Donc, aujourd'hui, je vois ma mère comme mon père, comme ma mère. Donc, ma mère est mon tout. Ma mère, c'est mon tout. C'est une image parfaite pour moi. Donc, je dis, c'est vrai que ce qu'il adviendra, les autres me rejetteront, mais ma mère ne pourra jamais me rejeter. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'est de me battre corps et âme pour arriver à m'intégrer, par exemple, dans la société pour faire un jour sa fierté.
Bon, en famille, sincèrement, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Parce que maman a fait 4 enfants, que des garçons. Donc, moi, je suis la dernière. Et tout le monde était élevé comme les garçons. Mais moi, je n'avais pas ce petit côté garçon, moi. Donc, c'était un peu bizarre. Donc, quand j'ai commencé la transition, sincèrement, ça n'allait pas. J'ai été agressée plusieurs fois verbalement par mes frères, je ne sais pas. S'ils voulaient le faire sciemment ou ils l'ont fait inconsciemment. Mais ils m'ont agressée plusieurs fois verbalement.
Et par exemple, qu'est-ce qu'ils disaient?
Non, on déteste les PD. Hein. Que c'est quoi ça? Mais attends, pourquoi c'est pas joli, c'est pas bon? Donc, en ma présence, ça me frustrait. Mais je ne pouvais pas m'exprimer. Donc, en 2018, en vacances 2018, c'était un peu de trop. Donc, j'avais décidé de mettre fin à ma vie. Donc, une fois, ma maman est rentrée. Et puis, je lui ai dit, maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de vivre. Que je ne vis pas bien. Donc, j'ai pensé à me suicider. Elle était choquée. Elle m'a dit, mais pourquoi? Comment toi, tu peux penser comme ça? Je lui ai dit, c'est pas de me demander comment je peux penser comme ça. Mais qu'est-ce qui me pousse à penser comme ça? Donc après, elle m'a dit, Dieu est grand, ça va aller. Mais je n'étais pas à l'aise, donc j'ai quitté la maison. Et depuis, j'ai commencé la transition. Je suis seule. Voilà. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur. Ma maison est vide, je ne reçois personne. Quand je dis à mon grand frère, non, laisse venir mes neveux, il me dit carrément non. Maman dit, mais si tu veux que les gens viennent te rendre visite, tu peux faire des enfants. Je pleure, mais je ne montre pas à ma maman que j'ai mal. Mais je pleure à l'intérieur de moi et je suis blessée. Parce que je me dis quoi? Ce que ma maman veut, je ne peux pas être cette personne-là. Attends, c'est ma maman seule qui... C'est ma maman seule qui vraiment est mon modèle. Donc, si elle ne me soutient pas, c'est difficile pour moi. Je suis seule aujourd'hui, j'ai pratiquement pas d'amis parce que je me dis quoi, mes propres parents m'ont pas accepté. Ceux qui sont censés me protéger ne veulent même pas me voir. Donc. C'est très difficile. Voilà, chacun a sa réalité comme on dit. On rit, on est oui, on est belle, on s'aime belle, on est sur Facebook, on est aimé. Mais c'est pas parce que on a tellement confiance en soi, mais c'est parce que on veut être accepté par X ou Y. Mais c'est la famille, ma propre famille, c'est cette famille-là qui doit vraiment m'accepter. Donc, ce manque-là, c'est en moi jusqu'à aujourd'hui.
Merci, Carmen.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît.
Bon, l'entourage c'est les bonjour, bonsoir. Là y a pas de problème. Mais au niveau des amis, par rapport à la communauté, Là, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, la jalousie, et puis bon, c'est tout, quoi. Côté ami, je préfère être ami avec les hétéros. Voilà. Qui ne savent même pas même mon passé. Là, je suis à l'aise avec ces personnes-là. Mais dans le milieu, là, trans, là même, c'est dangereux. Mais je suis femme. L'autre est femme. Bon, ah, est-ce qu'elle est plus belle que moi? Est-ce qu'elle est si elle est tant? Mais moi, je me dis, du fait que, peut-être que l'âge que j'ai aujourd'hui, et puis je suis encore sur cette terre-là, j'ai plein de mes copines qu'on avait commencé aujourd'hui qui sont en bas de la terre. Et moi, aujourd'hui, je me dis, Dieu merci, parce que peut-être que c'est le bon cœur que j'ai, et puis j'ai l'esprit de partage. Peut-être que c'est par rapport à tout ça là que je suis encore en vie. Voilà. Donc moi, amitié même dans le milieu là, franchement, ça c'est le dernier de mes soucis. Le dernier de mes soucis. Là seulement, Même à mon funérail, je ne vais même pas même te voir. Et là, si je t'ai vu là, tu vas te retourner, tu vas faire accident. Là, mon corps va parler. Ça c'est clé. Donc ça seulement, pour moi, c'est comme ça.
Au sein même de notre communauté, il y a beaucoup de stigmatisation, il y a beaucoup de discrimination qui font que les personnes transgenres aujourd'hui n'ont pas envie de fréquenter les centres même communautaires. Aujourd'hui, on ne peut pas s'intégrer dans les associations typiquement gays. On ne peut pas s'intégrer parce qu'ils ne connaissent pas déjà nos réalités. Aujourd'hui, quand on parle, on dit « Oh, vos problèmes d'hormones ». Ce n'est pas nos problèmes d'hormones après les hormones ou les facteurs de transition, il y a la vie, il y a l'insertion professionnelle, il y a le militantisme. Il faut développer le leadership peut-être des femmes trans, créer des conditions de sécurité autour de ces personnes, des personnes transgenres. Parce que quand on dit personnes transgenres, vous êtes aujourd'hui, c'est la violence, vous êtes cible à la violence et tout. Donc aujourd'hui, à force de peut-être trop revendiquer, on te voit comme la bête noire, on te met à l'écart. On ne vivait que sous nos propres cieux parce qu'il n'y avait pas d'assistance en tant que telle. Ni assistance médicale, ni assistance par rapport au logement, ni assistance par rapport à l'insertion professionnelle. Rien de tout n'est développé. Aujourd'hui, je suis une femme. Je peux aujourd'hui demander du travail, avoir du travail. Mais ce n'est pas toujours facile parce que les facteurs encore psychologiques encore qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas encore travail, mais je suis obligée de faire violence sur moi parce que c'est un choix de vie. Je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un de prendre cette décision de transitionner. Je l'ai fait parce que je me trouvais en harmonie avec moi. Donc aujourd'hui, que voilà, je suis à la rue, je suis amené à réorganiser encore ma vie, mais pour le militantisme, pour l'instant, en association, je ne suis pas encore prête.
Bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, par rapport à la transition, le problème d'hormones, c'est de bouche à oreille. C'est de bouche à oreille parce qu'on ne va pas se faire consulter par des endocrinologues pour pouvoir vraiment les prendre. Ça fait que ça, il y a beaucoup de représailles même à ce niveau-là. Donc si vraiment nous pouvions, nos organisations peuvent vraiment faire ces plaidoyers-là pour que nous puissions vraiment avoir des endocrinologues pour pouvoir vraiment nous suivre, voilà, là vraiment ce serait déjà un ouf. Donc là, ça fait un point. Et puis aussi, notre situation. Voilà, parce que avec la transition, quel que soit le diplôme que tu as eu, tu ne peux plus l'utiliser. Parce que là, déjà, c'est une autre identité que tu montres. Donc là aussi, si on peut aussi vraiment essayer de nous donner des opportunités pour pouvoir vraiment avoir certains petits boulots, pour pouvoir vraiment essayer d'évacuer vraiment nos occupations, ça sera aussi vraiment l'idéal.
Comme mes grandes sœurs et mes sœurs l'ont dit, concernant les problèmes qu'on rencontre, c'est le même problème. Parce que c'est vraiment difficile pour nous d'avoir vraiment un travail. Voilà, ça c'est clair. Parce que moi, j'ai eu le bac. Après le bac, mon père est décédé. Donc, ça n'allait pas. Donc, j'ai fait un an. J'ai eu un diplôme en cuisine européenne. Et j'ai été victime de chantage. C'est-à-dire, mon formateur a demandé à ce que je sorte avec lui. Je n'ai pas accepté. Donc, il m'a dit, OK, si tu n'acceptes pas, après ton stage, si on te demande de rester ici, dis que tu pars. Parce que si tu décides de rester, je vais voler un truc, je vais prendre un truc, je vais mettre dans tes affaires et ils vont t'accuser de vol, tu n'auras pas ton diplôme. Donc, j'ai pris mon diplôme et puis je suis rentrée à la maison. Mais quand je dépose dans les coins, c'est un peu bizarre parce que sur ma pièce déjà, il y a un grand changement. Un très grand changement par rapport à avant et maintenant. Donc quand je dépose, on me regarde, mais c'est pas vous.
C'est quoi les grands changements? Décrivez-vous avant et puis maintenant.
Bah, attendez, on va faire avec les preuves. Voilà, là c'est moi.
Attendez. Ah, donc là, un vrai garçon, cheveux courts, barbichette, teint plus foncé.
Oui.
Et maintenant, très jolie jeune femme avec des couettes,
oui,
des très longs cils et beaucoup plus clair de peau. Vous avez fait en sorte de vous éclaircir la peau?
Oui, oui. J'ai vraiment... Depuis longtemps, j'ai décidé de changer parce que c'est difficile. Ceux qui m'ont connue avant, quand ils me croisent, c'est généralement ces personnes-là qui, entre griffes, ont dit « les beaux ». Parce qu'ils te connaissent, ils te voient et maintenant tu as changé. Ils disent, mais attends, tu es garçon. Donc, ils ont cette capacité de t'exposer. Donc, facilement, on peut être agressé. Donc, moi, j'ai décidé de faire la transition. J'ai décidé vraiment de tout changer. Tout. Ma couleur de peau, mon physique, ma manière de m'exprimer. Changer même mes amis. Voilà. Voilà. Parce que si je ne change pas mes amis, tout le temps, ils vont me... ramener à l'étape de mec où j'étais, alors que je veux pas des personnes qui vont me ramener à cette étape, je veux des personnes qui vont me pousser à avancer. Donc j'ai coupé court avec eux et puis j'ai décidé d'avancer seule.
Le choix de vie n'a vraiment pas été facile. Il n'y avait pas grande chose au départ. Donc avec maintenant ma nouvelle situation de personne transgenre, de femme transgenre, j'étais contraint déjà à me prostituer pour payer le traitement pour ma transition. Donc, qui parle de prostitution de femmes transgenres, c'est être exposé à beaucoup de risques. Parce que quand une femme soulève son sac et qu'elle va en griffe, chez nous on dit gérer les bisous, c'est être exposé à beaucoup de vices. Il y a de la violence. Il y a de la violence de tout sort, psychologique, morale, physique et tout. On en a vécu.
La prostitution, du coup, le recours à la prostitution, il est obligatoire pour trouver de l'argent?
Bien sûr, il est obligatoire, je le dis oui. En tout cas, je le dis à vive voix parce que le diplôme que tu as reçu, tu as eu avant, tu ne peux plus vraiment utiliser ça pour pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que là, tu es obligé de donner une nouvelle identité. Donc là, tu fais comment les débuts, tu fais comment pour te procurer des hormones? Si d'abord, déjà, tu n'as pas eu du travail, tu es obligé de faire le trottoir. Et le trottoir aussi, peut-être quelqu'un va venir te prendre. Et après, il va vouloir te faire un chantage. Et ça devient autre chose. Donc le problème de violence, on est toujours victime. Voilà.
On n'a pas d'emploi. On vit comment? On survit comment? Dans l'activité que je mène, c'est une prime de transport que je reçois. La prime de transport, quand je paye ma maison, mes factures, il ne me reste pratiquement rien. Alors que pour moi, ma priorité, c'est mes hormones. Je ne veux pas sauter un mois, un jour, non. Parce que tant que je n'ai pas atteint mon but, fini la première étape qui est 2 ans, pour être vraiment, je peux dire, presque parfaite, je ne peux pas dormir.
Les hormones, il faut dire que c'est une fortune. C'est vraiment une fortune parce que dans le mois, vraiment, d'abord, il faut bien manger. Il faut bien se reposer. Les crudités aussi. Donc, tu n'as rien dépensé dans le mois d'abord. 150 000 peuvent rentrer dans les hormones. Et je dirais même 200 000, parce que des fois, quand tu commences, et après maintenant, il faut aussi maintenant doubler aussi les hormones pour pouvoir vraiment que ça puisse travailler. Et là, tu as besoin de repos, tu as besoin vraiment d'un bon suivi. Donc tout ça, vraiment, c'est ça. Donc là, c'est une fortune. Et là, tu vas enlever ça où?
Mais alors justement, vous personnellement, Monica, comment faites-vous? Où trouvez-vous ces hormones? Est-ce que c'est des hormones que vous trouvez sur le marché, dans le commerce? Ou c'est des hormones de contrebande? Qui vous les prescrit? Comment ça se passe finalement tout ça?
Justement, c'est parce qu'on n'a pas de suivi. Voilà, moi personnellement, mes hormones, quand j'ai commencé, c'est avec mes devancières. Voilà. Et je leur ai demandé, mais vous prenez quel genre d'hormones? Quand elles m'ont dit, bon, puisque vraiment c'est ce que je veux être aussi. Donc, je me suis jeté là-dessus et j'ai commencé à payer aussi à la pharmacie pour pouvoir quand même essayer d'en prendre. Voilà. Mais je n'ai jamais quand même reçu quand même des conseils d'un endocrinologue pour pouvoir vraiment les prendre. Et c'est là même le problème. Parce qu'il faut dire qu'il y a déjà la nouvelle génération aussi qui vient. Et cette nouvelle génération aussi a besoin aussi vraiment de ces endocrinologues-là pour pouvoir vraiment mieux se sentir aussi. Voilà. Le combat ne va pas s'arrêter sur Monica. Il y a forcément aussi d'autres qui viennent. Au fil du temps, ça pousse, et puis bon voilà, la communauté s'agrandit. You take drugs to psych your mind. You take wine. To forget about time, you create a world of your own.
where the truth will never be known. Well, brother, don't you know now that you're killing yourself and nobody else? Why don't you quit it now? Yeah, why don't you quit it now? You better quit it now. I said you better quit it now.
Moi, je fais la prostitution. Et ça fait, je peux dire, 3 mois que, oui, j'ai des clients qui m'appellent, je pars, je gère. Mais c'est toujours avec des difficultés. Parce qu'il y a des personnes qui m'agressent. Il y a des personnes qui te voient, oui, tu es belle, après l'acte sexuel. Comme ils ne veulent pas te payer, ils font un lébou. Ça, ce sont des expressions. Un scandale. Voilà. Que dégage, tu es un homme, tu te fais passer pour une femme, tu veux me soutirer de l'argent. Alors qu'il est informé de tout. Donc, à chaque fois qu'on sort, il y a vraiment l'épée de Damoclès sur notre tête. Parce que tout le temps, quelque chose. Voilà, il y a une violence qui. On est préparé tout le temps à être violenté. On y est préparé tout le temps à être violenté, que ce soit dans les transports en commun. Moi, j'évite. J'évite vraiment les transports en commun. Parce que s'il y a une personne qui te connaît, c'est un problème. Voilà. Donc, on s'adonne à la prostitution, pas parce qu'on aime, mais parce qu'on est dans une position, dans une situation où c'est la seule alternative pour nous, vraiment, de, je peux dire, avoir les finances un peu propice à nous aider. Donc, on ne fait pas ça de la prostitution notre métier, mais c'est juste occasionnellement. Voilà, j'ai besoin d'argent, ok, je vais, j'ai l'argent, je paye, voilà, et puis je suis là.
Ce soir-là, je suis passée et ce soir, les filles n'étaient pas arrivées en grand nombre. Et de là, il y a un malfrat là qui est sorti sur les ponts, qui a commencé à. On va vous pourchasser. Qu'est-ce que vous faites ici? Donc, moi, j'étais novice, je ne maîtrisais pas bien l'environnement. Donc, du coup, chacune a pris sa direction. Donc, moi, j'ai pris la ligne droite. Je suis arrivé quelque part. Le gars en question m'a poursuivi et il m'a rattrapé, en fait. Quand il m'a rattrapé, j'ai essayé de lui faire entendre raison, d'essayer de le comprendre. Il faut dire que si tu as vraiment eu une difficulté ou bien une situation avec l'une des filles sur le terrain, je peux t'aider peut-être à résoudre ce problème, mais j'ai même le temps même que je vais finir mes expressions. Voilà qu'il a envoyé le poignard. Il m'a poignardé dans la mâchoire. J'ai été poignardé dans la mâchoire 2 fois. Après, j'ai été poignardé dans les fesses. Donc, ce soir-là, ma robe, toute ma perruque, il a commencé à me crier là-dessus. Non, ce n'est pas une femme, c'est un homme habillé en femme. Bon, voilà. Donc, les gens étaient tellement choqués parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, en fait, ce qui se passait. Nous, on voit une femme qui est là et vous nous dites que c'est un homme qui est là. Donc, après, les badauds sont venus, ils ont commencé à allumer les téléphones portables. Déshabillons-lui, on va voir. Est-ce que vraiment c'est une réalité de ce que le gars est en train de dire? Donc, moi, dans le flot, j'ai essayé de courir. Il m'a rattrapé parce que je ne sentais pas encore mes blessures, parce que les blessures étaient profondes. Donc, le gars, il m'a rattrapé, il m'a fauché, il m'a mis à terre. Il a pris mon sac à main, il a pris de l'argent, mon téléphone portable, et il a rebroussé chemin. Donc, c'est ainsi que je suis resté baigné dans mon sang avec ma robe. C'est l'un des vigiles du coin qui est venu me secourir. Et qu'il a trouvé un taxi, j'ai regagné le centre. J'ai vécu dans le centre LGBT pendant un certain moment donné. Mais dans ce centre, aujourd'hui, c'est une expérience assez douloureuse parce que quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas les expressions, pour aider cette personne, je dis tout simplement que le silence déjà vaut le coup. Le silence va guérir un peu les plaies de cette personne. Donc, j'étais encore blessé intérieurement de savoir qu'une situation m'est arrivée, on ne m'approche pas pour demander qu'est-ce qui se passe et qu'on reste juste de fausses allégations pour me juger, pour me critiquer, pour me stigmatiser. Donc du coup, j'ai stoppé mes hormones sur une période. Et le fait de stopper les hormones, quand tu sors déjà, parce que tes attributs en fait masculins ont tendance à revenir à la surface. Déjà, la communauté ou bien l'entourage t'a déjà vu dans un tel environnement. Et que de sortir comme ça, avec un profil assez bizarre, ça t'expose à la violence. Donc du coup, c'était la pression encore psychologique, c'était encore la pression sociale.
Mais ce dont parlait RL tout à l'heure, un petit bandit qui passe, qui vous poursuit, qui vous poignarde, ça c'est des choses fréquentes ça?
Oui, c'est des choses fréquentes. Ça, c'est le quotidien même de notre vie. Là, vous voyez une cicatrice. Vous voyez?
Ouais, au niveau au cou, quoi.
Voilà, vous voyez, j'ai été poignardé ici. Voilà. J'ai été poignardé, j'ai failli mourir. Vous voyez? Et on m'a transporté au CHU de Cocody. Et les gens ont refusé de me traiter parce qu'ils disent que non, je suis une femme trans. Ils m'ont plus traité. Il a fallu que mon directeur exécutif, dans le temps, est arrivé, il a commencé vraiment à faire du tapage. Et c'est là maintenant, ils m'ont touché, ils ont commencé maintenant à me traiter tout. Oh, déjà, c'était tard parce que le cou était déjà enflé.
Mais des médecins ont refusé de vous soigner?
Les médecins ont refusé parce que je suis une femme transgenre. Des témoins même qui sont là, j'ai failli perdre la vie. Voilà. Et après ça encore, j'ai été poignardé là, même au niveau de mon ventre, où tous mes intestins étaient sortis. Donc il faut dire que le problème de violence, vraiment, ça c'est le quotidien des trans. Ça c'est clair. La deuxième agression, là, c'était vraiment un malfrat. Là, j'étais dans ma maison, la porte n'était pas fermée. Et la personne est rentrée, du coup, me poignarder. Voilà, là, c'est arrivé. Mais la première, c'est ce que je disais tantôt. C'est pourquoi j'ai dit où je suis, je n'ai pas d'amis. Parce que je ne suis pas hypocrite. Là, j'étais allé faire le trottoir. Et on habitait toutes ensemble dans la même cour, sur la route de l'aéroport. Donc, on était plein de trans là-bas. Et du fait qu'il n'y avait pas d'entente, moi, j'étais sorti. Et j'entrais vers 2h du matin avec un client. Donc, à l'entrée même du quartier, il y avait une trans qui a payé 2 bandits parce qu'elle savait forcément que j'allais rentrer. Elle a payé 2 bandits de se mettre sur la route pour pouvoir m'agresser. Et ces 2 bandits-là étaient munis des couteaux. Et j'étais avec le client. Dès qu'on rentrait net, c'était même la saison pluvieuse même. Et ils se sont jetés sur nous. Et comme ça, le client, lui, il a pu se sauver. Donc, ils m'ont piqué et les intestins étaient sortis. Ils m'ont transporté. Je suis rentré à la maison d'abord. Dieu merci, le protecteur de maison avait une bâchée. Mais il y avait les chiens dans la cour. Donc, du coup, quand il est sorti, j'ai tapé la porte parce que je ne pouvais plus rentrer chez moi. J'ai tapé la porte du protecteur de maison. Il est sorti. Il dit, mais Monica, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, tonton, je viens d'être agressé. Il a regardé. Il dit, ah, mais ça, c'est pas possible, ça. Déshabiller Monica et puis on va l'amener à l'hôpital. J'ai dit, non. Si c'est du côté de ma famille, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé. Au CHU de Trècheville, c'était férié et ils m'ont conduit au CHU de Yopougon. Il n'y avait pas de traitement, donc ils m'ont déposé comme ça devant le CHU là. Et c'est comme ça qu'on m'a amené au bloc pour pouvoir m'opérer, pour couper aussi les intestins et puis faire rentrer ce qu'on pouvait faire rentrer pour que je puisse vivre. Donc c'est là déjà, mon idée est bloquée. J'ai dit non, moi le côté ami, je ne veux pas. Parce que c'est nous-mêmes, on se fait du mal et on se tue. Voilà. Merci.
Merci. C'est un rêve qui a un coût important quand même. Et quand je dis un coût important, ce n'est pas un coût financier. C'est dur d'atteindre son rêve.
En tout cas, c'est très dur. Franchement, c'est très dur. Si tu n'es pas préparé, ce n'est pas facile de te lancer dans le traitement hormonal. Même si tu le veux, que tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas le faire. Ce n'est même pas du tout facile. Comme ma mère et ma gosse l'a dit, tu ne peux pas sauter des mois. Tu ne peux pas sauter des mois. Parce que si tu sautes, ça risque de te créer des problèmes en soi. Voilà. Et puis de nos jours aussi, les hormones sont très, très, très chers. Ils sont très chers.
Monica, si vous aviez su dès le début le parcours du combattant que ce serait, avec tout ce que ça supposait, est-ce que vous l'auriez fait quand même?
Oui, je n'allais même pas reculer et je n'allais même pas passer par 4 chemins. Je l'aurais fait, voilà, parce que c'est ce que je veux. Et je l'ai toujours dit, quel que soit ce qu'on va me dire, quelles que soient les violences que je vais recevoir, quel que soit le nombre de flics qui viendront mettre quand même le flingue même sur ma tête, je ne vais jamais changer d'avis. Parce que nul ne peut me faire changer de physionomie. Ma décision est prise et ça restera ferme. Voilà.
Carmel, alors vous, je vais la poser différemment la question parce que vous êtes en pleine transition encore. Jusqu'où vous seriez prête à aller?
Je suis prête vraiment à me battre, de faire l'impossible. Voilà, je suis prête à tout. Ça, c'est le plus important, je suis prête à tout.
Un petit mot de conclusion, mais je crois qu'on est obligé de laisser la parole à la doyenne pour ça, non? Bien entendu. On est en Afrique, il faut respecter les anciens.
Tu as fait la conclusion?
Oui, la conclusion est que vraiment, il faut dire que le métier n'est pas facile. Voilà, entamer une transition, ce n'est pas une tâche facile. Personnellement, ce que je conseille quand même à mes petites sœurs, à mes enfants, c'est d'être très prudente. Voilà, d'être très, très, très prudente, de ne pas vraiment essayer de fréquenter n'importe qui. Voilà. Et toutefois qu'un client t'appelle, il faut vraiment peser le pour et le contre, essayer de savoir vraiment où tu pars. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de pièges et il y a beaucoup de fausses personnes maintenant là. Il y a plus de profiteurs que vraiment la personne qui va vraiment t'aimer de manière sincère. Et en conclusion, c'est d'être très prudent. Voilà. Merci.
Okay. Merci. Merci à toutes.
Merci.
Merci infiniment à toutes.
Merci à vous.
Voilà pour votre reportage, Igor Strauss. Je vous propose tout de suite de rejoindre la Côte d'Ivoire. Nous sommes en ligne avec le docteur Camille Anoma. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'association ivoirienne Espace Confiance, hein, cette association qui, avec l'aide de l'ONG française SIDAction, appuie un suivi médical et psychosocial aux transsexuels du pays. On a bien entendu dans ce reportage d'Igor ces transsexuels qui subissent parfois des violences terribles, des agressions. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ce sont des expériences singulières, voire exceptionnelles?
Je pense qu'il est triste de dire que malheureusement il s'agit d'expériences très régulières au niveau donc des transgenres, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense aussi que nous travaillons un tout petit peu avec les autorités pour essayer donc de faire en sorte que l'environnement puisse s'améliorer. Mais également, dans le cadre d'un projet, nous faisons en sorte donc de pouvoir documenter tous ces cas de violence basée sur le genre, y compris aussi faire l'accompagnement nécessaire de ces personnes, aussi bien en ce qui concerne la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, mais également en ce qui concerne aussi l'accompagnement judiciaire quand ces personnes, bien sûr, ont besoin d'avoir leurs droits respectés et faire en sorte donc que la justice de Côte d'Ivoire donc puisse punir les personnes coupables de ces actes qui ne sont pas admissibles.
Précisément, sur le plan pénal, docteur Anoma, est-ce qu'il y a déjà eu des condamnations après ces agressions de transsexuels?
Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore connu d'exemple de condamnation parce que malheureusement, dans l'accompagnement donc des victimes, à un moment donné, plusieurs raisons qui leur sont personnelles, je pense qu'ils refusent d'aller jusqu'au bout du parcours judiciaire, aussi peut-être parce qu'ils ont un tout petit peu peur, voilà, de se retrouver dans des écrits de journaux, de se retrouver aussi avec le positionnement familial. Donc on fait l'accompagnement, mais il est vraiment donné libre cours à la victime d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Et malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas pu avoir d'exemple de procès avec des condamnations. Et nous poussons pour, parce que nous pensons que ça pourrait servir d'exemple et peut-être aussi avoir une influence positive et avoir une meilleure protection pour ces personnes.
Lutter contre l'impunité, mais on perçoit bien ces craintes pour la sécurité. Alors, quand on voit ce dossier, on voit en fait toute la liste des défis hein, qui s'imposent aussi bien pour les personnes transsexuelles que pour celles et ceux qui les accompagnent. Par exemple, quand on change d'identité, eh bien, ça devient compliqué de poursuivre son activité professionnelle puisque les diplômes de ces personnes transgenres ne sont pas reconnus. Docteur Camille Anoma, on a entendu tout à l'heure dans le reportage Monica, elle était professeure. Quand il était professeur, devenu femme, il ne peut plus exercer. Alors comment, justement, on peut expliquer cela, puisque finalement, ni l'intelligence, ni les compétences n'ont changé?
Oui, on peut simplement l'expliquer par le fait que dans nos dispositions aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas des mesures qui permettraient de donner des réponses adaptées et intelligentes à ce genre de situation.
Ça veut dire qu'il faut changer la loi?
Clairement, il faut changer la loi. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui doit être fait pour que ce genre de situation puisse être prise en compte dans nos juridictions, dans notre environnement. Je sais que de par le monde, certains pays ont progressé et donc on peut s'en inspirer. Mais pour l'instant, la loi en Côte d'Ivoire ne le permet pas de le faire.
On voit donc tous ces défis multiples. Oui. Pour revenir aux questions purement médicales pour cette transition, ces femmes ont besoin d'hormones. Justement, le rôle de ces hormones et peut-être surtout l'accès à ces hormones. Comment cela se passe pour ces personnes, docteur Camille Anoma?
Alors, je suis un tout petit peu malheureux de dire que c'est un domaine qui a été identifié comme un besoin clair de ces personnes. Dans la situation actuelle, nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour avoir le renforcement nécessaire du personnel médical pour faire l'accompagnement avec les hormones. Mais je sais très bien que certains de nos clients ont recours à du personnel de santé qu'ils connaissent et qui permettent qu'ils aient accès à des traitements. Mais on peut se poser la question du contrôle de ces traitements, etc. Donc, en fait, c'est identifié comme un besoin. Dans la situation actuelle, nous ne sommes pas en capacité de donner les bonnes réponses. Mais comme je le disais tantôt, nous sommes en recherche donc d'appui, et notamment à ce qui se fait au Canada, etc., pour que finalement notre équipe ici soit capable de donner les bonnes réponses en tenant compte aussi des produits disponibles sur nos marchés.
On l'entend bien, hein, tous ces obstacles, tous ces défis, malgré tout, ces femmes ne renoncent pas, on les perçoit comme prêtes à tout pour poursuivre leurs rêves, leurs objectifs, en dépit du jugement des uns et des autres. Qu'est-ce que ça vous inspire, à vous, médecins qui suivez ces hommes devenus femmes? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense tout simplement que nous devons être capables, dans nos différentes sociétés, à un moment donné, de faire l'accompagnement et de faire aussi l'acceptation de réalité, même si elle ne plaise pas à certaines personnes. Donc je crois que la détermination des transgenres est encore une preuve formelle que nos sociétés ont besoin de se transformer, que nos sociétés ont besoin de faire davantage en ce qui concerne l'acceptation des autres. Et oui, c'est un défi au quotidien. Et voilà, malheureusement, nous qui sommes dans la problématique des populations clés, donc qui partent au-delà donc, de la question des transgenres, qui touche la population des homosexuels, des usagers de drogue, des travailleurs du sexe, malheureusement, c'est un combat au quotidien. Et donc, clairement, je le dis une fois, nos politiques doivent s'adapter, nos sociétés doivent s'adapter. Et donc, clairement, nous devons faire un effort pour devenir un tout petit plus progressif et rendre donc de donner un visage beaucoup plus humain de l'humain. C'est ce que je peux vous dire.
C'est une question de tolérance, mais c'est aussi, hein, vous le soulignez, en tant que médecin, une question de santé.
C'est une question de santé, c'est une question de tolérance. Et de toutes les façons, tout ce qui a été barrière de par le monde n'a jamais résolu les problèmes quand il s'agit de problèmes qui sont des problèmes de fond, des problèmes profonds, et pour lesquels, je pense, il faut donner des solutions qui sont des solutions intelligentes et adaptées.
Merci beaucoup, hein, docteur Camille Anoma. Je rappelle que vous êtes
médecin.
Je
vous remercie.
Merci beaucoup, directeur de l'association ivoirienne Espace Confiance. Merci beaucoup.
Merci.
Parole de transsexuel à Abidjan, un reportage signé Igor Strauss, réalisé par Pauline Leduc. Et demain, dans Priorité Santé, nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée à l'alimentation aux différents âges de la vie. On se retrouve pour en parler demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.